Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de lire l'Ancien Testament ou de penser aux histoires bien connues d'Abraham ou de Moïse ou du roi David ou du prophète Élie et de vous dire qu'ils avaient quand même de la chance, ces gens-là? Je veux dire, des fois, ils entendaient Dieu leur parler à voix haute. Des fois, Dieu, il accomplissait des miracles spectaculaires sous leurs yeux. Du coup, c'était sûrement plus facile d'être un croyant à cette époque-là et dans ces conditions-là, non? Plus facile de suivre Dieu. On a l'impression, des fois, en lisant ces histoires, que ces gens-là, ils avaient quelque chose de plus que nous. Comme si la foi, pour eux, c'était plus vrai, plus tangible, que ça correspondait à quelque chose d'un peu plus réel dans leur vie. Et peut-être que si on avait vécu en l'an moins 1000 ou moins 1400 ou moins 1800, comme Abraham, par exemple, peut-être qu'on aurait eu une meilleure relation avec Dieu. Peut-être qu'on bénéficierait de conditions plus favorables si on avait vécu à cette époque-là, dans ces conditions-là, des conditions plus favorables pour connaître Dieu et pour lui rester fidèle. Non? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Le texte qu'on est sur le point de lire va justement complètement tordre le cou à cette idée et nous montrer au contraire, et tenez-vous bien, que c'est Abraham, Moïse, David, Élie et tous leurs contemporains qui auraient envie d'être à notre place, tellement les conditions sont plus favorables aujourd'hui pour connaître Dieu et pour lui rester fidèle. Et avant de lire le texte en question, il faut bien comprendre que ce passage, il est extrait d'un message que Dieu a adressé au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament par l'intermédiaire d'un prophète du nom de Joël. Hein. Les prophètes, ce sont des gens suscités par Dieu pour adresser de sa part un message aux hommes. C'est aussi simple que ça. Donc là, on a un prophète qui s'appelle Joël et qui fait ça, qui va adresser un message au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Alors, on n'est pas sûr du moment exact dans l'histoire où Joël a prêché ce message, mais ce qui est sûr, c'est que c'est à un moment de l'histoire d'Israël qui n'est pas un moment très glorieux. C'est un peu comme ce qu'on a vu quand on a vu ce texte dans le livre d'Ézéchiel. Hein, les Israélites, ils sont tombés bien bas dans leur relation avec Dieu, et le prophète leur annonce d'abord le châtiment de Dieu à l'encontre des péchés du peuple, à l'encontre de leurs fautes, ce qui était conforme d'ailleurs à ce qui était prévu dans l'alliance, dans ces promesses que Dieu avait faites avec son peuple, ce contrat que Dieu avait établi avec son peuple. Hein. En cas d'infidélité, il y avait des sanctions, il y avait des avertissements qui dataient pas d'hier, hein, qui dataient d'il y a longtemps, donc c'était conforme à ça. Et donc, dans un premier temps, Joël va annoncer eh bien, ce jugement, ce châtiment de Dieu à l'encontre des fautes de son peuple. Mais dans un second temps, comme le prophète Ézéchiel, dans un second temps, Joël leur annonce aux Israélites, de la part de Dieu, il leur annonce une future délivrance et un futur rétablissement. Et le texte qu'on va lire s'inscrit dans cette seconde partie de la prophétie, dans la partie bonne nouvelle, si vous voulez, d'accord? Pour les Israélites de l'époque de Joël, il s'agit donc de ce que Dieu promet de faire à l'avenir. Mais pour nous aujourd'hui, en 2017, comme on va le voir dans un instant, il s'agit en fait d'une promesse que Dieu a réalisée. Ça se trouve donc dans le passé. C'était dans l'avenir pour les Israélites dans l'Ancien Testament, mais c'est dans le passé pour nous aujourd'hui. Ces quelques versets décrivent pour nous une réalité qui a déjà été établie, et en fait, cette réalité, c'est le contexte dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. Vous allez donc voir que Dieu promet aux croyants de l'époque de Joël l'avènement d'une sorte d'âge d'or, en quelque sorte pour ce qui concerne la relation des hommes avec Dieu. Une sorte d'âge d'or pour ce qui concerne la relation des hommes avec Dieu. Autrement dit, ce sera tellement mieux que tout ce que les Israélites ont jamais connu dans toute leur histoire jusque-là. Mais voilà, pour nous qui vivons en 2017, le message est le suivant, c'est que cet âge d'or, il est venu. Et que nous serions fous de ne pas en profiter. Lisons le texte. Joël, donc, chapitre 3, verset 1, ou bien peut-être chapitre 2, verset 28. À vous de voir, en fonction de votre édition de la Bible. C'est Dieu qui parle ici, à travers son prophète, et il dit: Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. Car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura des rescapés, comme l'a dit l'Éternel, et ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants. On va prier avant de regarder tout ça un peu plus dans le détail. Prions. Seigneur notre Dieu, merci beaucoup pour ta parole. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de l'étudier ensemble, de la lire déjà et de méditer sur son sens. Et nous te prions de nous aider par ton esprit, Seigneur. Aide-nous à recevoir, à comprendre déjà et à recevoir tout ce que tu veux nous communiquer. Nous te demandons cela au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors la première chose que ce texte veut nous faire comprendre, c'est que nous sommes aujourd'hui au bénéfice d'une œuvre inédite de l'Esprit Saint. Dans le texte, Dieu il promet quelque chose d'incroyable à son peuple. Il dit qu'il va répandre, ou littéralement, il va déverser abondamment son esprit sur toute chair, dit-il, si bien qu'il y aura à ce moment-là des prophéties, des songes et des visions. Le rôle du Saint-Esprit dans la transmission de révélations de la part de Dieu, ça, c'était pas une idée nouvelle pour les Israélites. Ce qui est nouveau ici, c'est l'étendue de cette œuvre, c'est l'amplitude de cette œuvre. Ce qui était jusqu'alors plutôt ponctuel dans l'histoire d'Israël, ce qui était jusqu'alors plutôt réservé à quelques personnes appelées justement des prophètes, sera tout d'un coup beaucoup, beaucoup plus répandu. Les anciens, les fils, les filles, les jeunes gens, même les serviteurs et les servantes vont recevoir l'esprit et avoir des songes, des visions et vont prophétiser, etc. C'est un peu comme quand on s'est habitué pendant des années à prendre sa douche avec une pression d'eau qui était faible. Ça peut faire l'affaire hein, pendant un temps, mais un jour, vous voyez, le plombier il vient et puis il vous débouche la canalisation qui était un peu bloquée, un peu bouchée, et tout d'un coup, waouh, toute cette eau qui sort en abondance, on avait oublié ce que c'était de prendre une douche avec de la pression comme ça. Quel plaisir de prendre sa douche maintenant. Et le prophète annonce ici quelque chose de similaire, mais par rapport à l'Esprit Saint, hein, qui sera déversé de manière beaucoup plus abondante, c'était limité autrefois, mais maintenant ce sera abondant, il y aura de la pression si j'ose dire, hein. Et tout le monde dans le peuple, maintenant tout le monde, et pas juste quelques prophètes, mais tout le monde dans le peuple va faire l'expérience de cette œuvre de l'Esprit qui consiste à nous communiquer de la connaissance de la part de Dieu. Et nous sommes aujourd'hui au bénéfice de cette œuvre inédite de l'Esprit Saint. Alors vous dites, comment ça? Eh bien, il faut savoir que cette prophétie, comme c'est souvent le cas dans l'Ancien Testament, lorsqu'il est question d'une future délivrance et d'un futur rétablissement pour les Israélites, cette prophétie pointe vers la venue et l'œuvre d'un personnage qu'on appelle dans l'Ancien Testament le Messie. Le Messie, le reste de la Bible nous le dit bien clairement, bien explicitement, ce Messie c'est Jésus. Il est venu en effet de la part de Dieu pour délivrer son peuple de ses péchés. Il est mort pour ça. Sur la croix, il a détourné sur lui-même la peine qui était destinée au peuple de Dieu en raison de leurs péchés, et il a détourné sur lui ce châtiment pour que le peuple puisse en être délivré et qu'il soit réconcilié avec Dieu. Le troisième jour, j'espère que vous le savez, ce n'est pas une nouvelle que vous apprenez aujourd'hui, le troisième jour, Jésus est ressuscité, et par sa résurrection, il a inauguré un âge nouveau, l'époque dite dans la Bible dite de la Nouvelle Alliance, où les cérémonies anciennes de la loi de Moïse ont été accomplies une fois pour toutes, et puisqu'elles ont été accomplies une fois pour toutes, elles sont révolues, elles n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Une époque où les gens peuvent maintenant s'approcher de Dieu en Christ seul, par la grâce seule, par le moyen de la foi seule. Et il y a toutes sortes de bienfaits qui viennent dans cette Nouvelle Alliance qui a été inaugurée par la venue et l'œuvre de Jésus-Christ. Je vous rappelle que quand Jésus a présenté la coupe et qu'il a institué la sainte-cène pour les chrétiens, il a dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance ». Il fait allusion ici à cette nouvelle alliance, cette nouvelle époque, cette nouvelle période dans la relation des hommes avec Dieu que lui a inaugurée. Il y a toutes sortes de bienfaits attachés à cela, mais un de ces bienfaits, Eh bien, c'est le fait que Jésus allait envoyer l'Esprit Saint. Il avait promis à ses disciples qu'il allait leur envoyer l'Esprit Saint, justement de façon inédite, en des proportions nouvelles en quelque sorte, plus abondamment qu'il n'a jamais été autrefois dans l'histoire. Et il allait envoyer le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit communique à tous les croyants les moyens d'accomplir puissamment leur vocation. Alors, j'ai conscience que tout ça, c'est un peu technique, mais suivez bien ce que je suis en train de dire. Peu de temps après la résurrection de Jésus, et peu de temps après son ascension au ciel, les premiers chrétiens, 10 jours après l'ascension de Jésus au ciel, les premiers chrétiens, ils étaient rassemblés à Jérusalem pour une réunion de chrétiens, comme on peut en faire quand on est chrétien, et le jour de la Pentecôte, qui était le jour d'une fête juive, ils ont tous été remplis d'Esprit Saint et ils se sont mis à parler des merveilles de Dieu spontanément en des langues étrangères qu'ils n'avaient jamais apprises. Le texte nous dit dans le livre des Actes, chapitre 2, qu'ils parlaient des merveilles de Dieu selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et là, en voyant ce qui se passait, l'apôtre Pierre, qui était là bien sûr, l'apôtre Pierre a tout de suite pensé à ce texte de Joël, à cette prophétie qui avait été faite bien des années auparavant, même plusieurs siècles auparavant. Il a tout de suite pensé à ce texte de Joël, et il a dit aux gens qui étaient assemblés là ce jour-là, il leur a dit que cette prophétie ce jour-là se réalisait. Il a expliqué que Jésus, je cite acte 2 verset 33, il a dit que Jésus, élevé par la droite de Dieu, ça c'est une référence à son ascension au ciel, élevé par la droite de Dieu, a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Et en disant qu'il l'a répandu, l'apôtre Pierre utilise le même verbe que celui qui est dans la prophétie de Joël. Jésus a répandu l'Esprit Saint, comme vous le voyez et l'entendez. Le peuple de Dieu a donc bien reçu l'Esprit Saint. Ça se passe dans le passé, vous avez compris, vous suivez. L'Esprit Saint a été déversé abondamment en des proportions absolument inédites au profit de tous les croyants. Ok. Alors, il y a beaucoup d'aspects différents à l'œuvre de l'Esprit dans la Nouvelle Alliance. L'Esprit Saint qui nous remplit en tant que croyants, qui nous éclaire, qui nous équipe pour l'accomplissement de notre mission. Mais ce qui est particulièrement important et ce qui est visé dans le message de Joël, qui fait l'objet de notre réflexion cet après-midi, c'est le fait que l'Esprit augmente notre connaissance de la vérité. En effet, quand on observe ce qui s'est passé au premier siècle, on voit que l'Esprit Saint a puissamment inspiré et conduit les apôtres et les prophètes de cette époque-là pour nous livrer tous les enseignements consignés aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Et l'Esprit Saint continue aujourd'hui non pas de révéler des choses nouvelles, mais d'utiliser ces choses qu'il a révélées pour augmenter notre connaissance de Dieu, pour augmenter notre sagesse, pour nous conduire, pour nous corriger parfois, pour nous faire grandir dans la foi et pour nous équiper pour servir Dieu puissamment, notamment dans le cadre de notre témoignage auprès des gens autour de nous. Nous continuons donc d'être aujourd'hui au bénéfice de cette œuvre inédite de l'Esprit Saint. Quelle chance nous avons d'avoir accès à la Bible tout entière, Ancien et Nouveau Testament, qui est la parole de Dieu, qui est l'épée de l'Esprit, comme le dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens. Vous savez ce qu'on dit, hein ? Ce qui est rare est cher. Et je pense que nous oublions facilement que la révélation de Dieu a été donnée à son peuple de façon très parcimonieuse au fil de l'histoire. C'est pas tout venu d'un coup, n'est-ce pas? Quand les Israélites sont entrés en terre promise, ils étaient au moins 600 000 hommes à sortir d'Égypte, vraisemblablement près de 2 millions si on compte les femmes et les enfants. Quand ils sont entrés en terre promise, ils étaient très nombreux, mais ils n'avaient que les 5 premiers livres de notre Bible. Ces textes sont enrichis ensuite, petit à petit, au fil des siècles, en fonction notamment de la relation chaotique que les Israélites avaient avec Dieu, et puis voilà, Dieu leur envoie un petit prophète par-ci, un petit prophète par-là, pour leur rappeler ses promesses, pour confirmer ses avertissements, etc., etc. Mais quel changement avec la venue du Messie Jésus-Christ ? Quel changement ? Il est lui-même la parole de Dieu, faite chair, il est la révélation ultime de Dieu. Il nous fait connaître Dieu personnellement, en sa personne, il nous fait connaître Dieu. Et puis voilà qu'il envoie en plus l'Esprit Saint remplir les apôtres et les prophètes et les conduire dans la révélation du Nouveau Testament. Et il nous remplit à notre tour en tant que croyants de ce même Esprit qui va employer sa parole pour nous faire grandir et nous équiper à notre tour pour le service. Mais c'est dingue ! Quelle chance nous avons, n'est-ce pas, d'exister aujourd'hui et d'être au bénéfice de cette œuvre inédite de l'Esprit-Saint qui est manifeste lorsque nous tenons entre nos mains la Sainte Bible, la parole de Dieu, le canon de l'Écriture. Nous sommes dans une situation tellement meilleure que celle d'Abraham, de Moïse, du roi David, du prophète Élie ou même du prophète Joël qui nous parle ici. Nous sommes donc au bénéfice de cette œuvre inédite de l'Esprit-Saint, mais nous sommes aussi, deuxièmement, au bénéfice de signes spectaculaires qui confortent notre foi. Le texte dit, à partir du verset 3, que Dieu va accomplir des prodiges qui vont annoncer la venue du jour de l'Éternel. Et le prophète ici, il emploie un langage dit apocalyptique, qui ne doit pas forcément être compris de manière littérale, comme si on devait s'attendre à une éclipse littérale du soleil ou à ce que la lune soit colorée en rouge. C'est un langage qui est destiné à décrire de manière évocatrice des événements historiques importants, bouleversants, qui sont souvent en rapport avec le jugement de Dieu à l'encontre du mal. C'est comme ça que bien souvent les prophètes emploient ce type de langage apocalyptique. Joël veut faire comprendre à son auditoire que la venue de cette délivrance et de ce rétablissement dont il est question dans cette partie de son message, de sa prophétie, et bien que la venue de cette délivrance sera attestée par des signes incontournables et que les croyants pourront même se référer à ces signes pour savoir que Dieu est bel et bien en train d'accomplir ses promesses. En fait, c'est assez souvent dans les Écritures que Dieu dit aux croyants qu'ils reconnaîtront un événement particulier aux signes qui accompagneront cet événement. Et c'est le cas pour la venue de cette époque privilégiée de la Nouvelle Alliance dont il a déjà été question. L'apôtre Pierre, par exemple, en interprétant cette prophétie le jour de la Pentecôte, à l'occasion que je vous ai décrite il y a quelques instants, dans le cadre de ce message qu'il adresse à son auditoire ce jour-là, l'apôtre Pierre dit justement que Jésus, je cite, a été approuvé de Dieu en tant que le Messie promis par des miracles, par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous. Et là, Pierre, il emploie le langage de la prophétie de Joël quand il dit les prodiges et les signes. Et il dit voilà comment Dieu a approuvé Jésus, qu'il vous a montré que Jésus était le Messie par les signes et les miracles qu'il a fait, que Dieu a fait par lui au milieu de vous. Des signes et des prodiges, c'est aussi ce qui a attesté l'autorité des apôtres et des prophètes au premier siècle, d'après l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 4. Ces apôtres et ces prophètes qui étaient chargés par Dieu de nous communiquer cette révélation plus complète consignée aujourd'hui dans le Nouveau Testament, œuvre inédite de l'Esprit-Saint. Et puis la mort de Jésus sur la croix s'est produite, elle aussi, dans les ténèbres, nous dit l'Évangile. Dans les ténèbres, alors que c'était le milieu du jour. La résurrection de Jésus, le troisième jour, est aussi un signe, un prodige, sans égal en fait, qui marque le plus grand bouleversement de notre histoire. Et puis Jésus a employé ce même langage apocalyptique pour parler notamment de la destruction à venir, pour son époque, la destruction à venir du temple des Juifs qui était à Jérusalem. Une destruction à venir pour lui et ses apôtres, mais passée pour nous, puisque ça a eu lieu en l'an 70. Bref, vous voyez que cette entrée dans l'époque de la Nouvelle Alliance a été marquée, effectivement, par des signes et des prodiges, conformément à ce que Joël a annoncé d'avance dans cette prophétie que nous lisons et que nous étudions ensemble ce soir. Le Messie est venu, il est mort, il est ressuscité, il a envoyé l'Esprit, il a équipé ses apôtres et ses prophètes, il a fourni la révélation du Nouveau Testament Il a détruit le temple des Juifs pour manifester de manière spectaculaire la fin de l'époque de l'ancienne alliance et le jugement des Israélites incrédules, et pour annoncer d'avance la venue d'un grand jour de jugement à venir auquel tous les hommes seront soumis. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Voilà ce qui est passé et voilà ce qui est encore à venir. Ce grand jour de l'Éternel, le grand jour du jugement qui est encore devant nous. Et nous pouvons en être certains. Et d'après ce texte, nous sommes au bénéfice de ces signes spectaculaires qui confortent notre foi. Ce sont des signes que nous pouvons observer, car ce sont des événements historiques, enregistrés dans l'histoire. Et ces choses-là peuvent conforter notre foi. Cette semaine, j'ai vu une vidéo, il y avait un migrant somalien, je crois qu'il était somalien, qui marchait dans la nuit au milieu d'une tempête de neige. Et quelqu'un l'a vu là et a voulu le secourir. Et ce pauvre homme, il ne savait pas où il était. Il espérait rejoindre le Canada. Mais il était complètement hébété et désorienté. La personne qui l'a secouru lui a dit de pas avoir peur et qu'il allait appeler la police et qu'ils allaient s'occuper de lui et lui fournir un endroit où il pourrait s'abriter. Et quand la police est arrivée, ils ont dû le rassurer de nouveau, lui montrer le sigle de la police canadienne, parce qu'il ne savait pas où il était et il ne savait pas qu'il était en fait arrivé déjà au Canada. Peut-être qu'ils lui ont aussi montré des panneaux de signalisation pour dire « Regarde, c'est vrai, tu es vraiment au Canada. Tu es vraiment en terrain favorable. » Et nous aussi, nous avons peut-être tendance à oublier où nous nous situons dans l'histoire du salut, c'est-à-dire dans l'histoire de la relation entre Dieu et les hommes. Or, nous sommes en vérité en terrain vraiment favorable. Parce que le Messie, il est venu, il a vu, il a vaincu. Et Dieu a attesté cette réalité par des signes dans l'histoire que nous pouvons observer et qui peuvent conforter notre foi, comme le sigle de la police canadienne a peut-être conforté ce migrant, ou les panneaux de signalisation qui lui attestaient qu'il était bien au Canada. Et nous aussi, nous pouvons nous tourner vers ces signes et ces prodiges. La résurrection de Jésus. Sa mort spectaculaire dans des ténèbres au milieu du jour. La destruction du temple de Jérusalem en l'an 70 qui n'a pas été reconstruit jusqu'à ce jour, qui atteste bel et bien la fin de l'ancienne alliance. Et notre entrée dans cette ère nouvelle qui est celle de la nouvelle alliance. Tellement plus favorable pour ce qui est de notre relation avec Dieu. Nous sommes donc au bénéfice premièrement d'une œuvre inédite de l'Esprit-Saint. Deuxièmement, au bénéfice de signes spectaculaires qui confortent notre foi. Et troisièmement, nous sommes au bénéfice d'une offre de grâce universelle. C'est bien ce que dit le prophète au verset 5, à la fin du passage qu'on a lu. Il dit « Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Que ce soit les Israélites rescapés, dit-il, c'est-à-dire des Israélites fidèles, qui auront foi au Messie, Jésus, ou même des non-israélites, c'est-à-dire des gens issus des autres peuples. » Et ça, en vérité, ce n'est pas une nouveauté dans les prophéties de l'Ancien Testament. Mais c'est ça que veut dire Joël quand il dit « quiconque ». Quiconque, ça ne veut pas dire quiconque parmi les Israélites, ça veut dire quiconque dans l'absolu, quiconque parmi les êtres humains. Et c'est ce que dit aussi l'apôtre Pierre, toujours le jour de la Pentecôte, lorsqu'il constate ce qui se passe et qu'il pense à ce texte de Joël et qu'il se met à prêcher aux gens rassemblés ce jour-là. Il cite ce texte donc et ensuite il va parler. Ben là, en l'occurrence, ce sont des Juifs qui sont rassemblés ce jour-là à Jérusalem, puisque la fête de la Pentecôte était une fête juive. Et il leur dit, la promesse est pour vous et pour vos enfants. Ben, jusqu'ici, il n'y a pas de problème, tout le monde est d'accord. Et il ajoute, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Ici, l'apôtre Pierre, il est tout simplement en train de tirer une application du texte sur lequel il prêche ce jour-là. L'apôtre Paul, quant à lui, et vous savez peut-être que l'apôtre Paul, il a reçu un appel un peu particulier qui consistait à évangéliser justement les non-juifs. Ben, l'apôtre Paul, il cite aussi ce texte de Joël dans l'Épître aux Romains, c'est le texte qu'on a lu tout à l'heure, où il dit « Il n'y a pas de différence en effet entre le juif et le grec,
grec, ça veut dire le non-juif, hein, à cette époque-là. Ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car, et il cite Joël, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous voyez ? Nous sommes aujourd'hui au bénéfice d'une offre de grâce universelle. C'était pas comme ça avant. Jusqu'à la venue du Messie, il y avait une relation privilégiée entre Dieu et une nation en particulier, c'était la nation d'Israël. Alors bien sûr, les non-israélites pouvaient intégrer le peuple de Dieu, c'était tout à fait possible, mais c'était compliqué, c'était difficile à certains égards. Puis le peuple d'Israël, il n'avait pas reçu de mandat missionnaire. Dieu, il n'avait pas dit aux Israélites, allez dans toutes les nations et prêchez l'évangile à tout le monde. Il n'avait pas dit ça, ça n'existait pas à cette époque-là. Il y avait comme un mur de séparation entre les juifs et les non-juifs, entre les israélites et les non-israélites. Mais avec la venue et l'œuvre de Jésus, le Messie, les choses ont changé. L'apôtre Paul dit, encore lui, il dit aux non-juifs de son époque, il dit, « Maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. » Christ, c'est le mot grec pour dire Messie. Car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Et c'est ça que Joël, il annonce d'avance ici, dans ce passage qu'on a lu, quand il parle de la future délivrance et du rétablissement du peuple de Dieu, et qu'il dit que en ce jour-là, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et le but, c'est que nous puissions, nous aujourd'hui, nous rendre compte, encore une fois, de la chance que nous avons de vivre à cette époque-ci. Quelle chance! On aurait pu vivre à une époque où le salut était difficile à trouver, pour nous qui, pour la plupart en tout cas, sommes des non-juifs. Hein, c'est un peu comme si vous aviez un budget très limité et que vous avez besoin de remplacer votre machine à laver. Mais c'est trop cher, vous voyez? Alors vous ne savez pas comment vous allez faire. Vous vous dites qu'il va falloir sans doute économiser pendant plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. Vous devez en attendant laver votre linge à la main, c'est compliqué, c'est difficile, c'est contraignant, mais voilà qu'un jour vous voyez un panneau dans la rue et c'est marqué en grandes lettres « Solde ». Moins 50%, moins 60%, moins 80%, tout doit disparaître, liquidation totale, prix sacrifié, etc., etc. Tout d'un coup, la situation n'est plus la même. Tout d'un coup, la machine à laver vous est devenue accessible. L'obstacle financier n'est plus, il a disparu. Et nous devons nous rendre compte de la chance que nous avons de vivre à l'époque des soldes pour ce qui concerne le salut. Pardonnez-moi la comparaison, mais l'idée c'est que tout ce qui pouvait constituer un obstacle à ce que nous ayons une relation personnelle et vivante avec Dieu pour toute l'éternité, tout cela a disparu. Tout ce qui constitue un obstacle a disparu. Pour les juifs, c'est la disparition de toutes les contraintes rituelles de la loi de Moïse qui ont été accomplies une fois pour toutes en Jésus. Pour les non-juifs, c'est la disparition de ce mur de séparation et c'est l'ouverture du royaume à toutes les nations. Tout le monde peut venir à Dieu en Christ seul, par la grâce seule, par le moyen de la foi seule et recevoir tous les bienfaits de la nouvelle alliance, à commencer par cette plénitude de l'Esprit Saint et l'œuvre puissante qu'il compte accomplir en nous par le moyen de sa parole. En quelque sorte, on pourrait dire que le salut s'est démocratisé. C'est pour ça qu'autrefois, quand on donnait la date, on parlait de l'an de grâce 2017. C'est une année de grâce, parce que depuis la venue du Messie, nous sommes au bénéfice de cette offre de grâce universelle. C'est pour cette raison qu'on disait an de grâce. Après, bien sûr, la venue de Jésus et son œuvre. Alors, est-ce que nous avons quoi que ce soit à envier à Abraham, à Moïse, au roi David, au prophète Élie, ou au prophète Joël, ou à n'importe qui d'autre qui a vécu à l'époque de l'Ancien Testament? Est-ce que nous avons quoi que ce soit à leur envier pour ce qui concerne la relation qu'ils avaient avec Dieu et leur vie de croyants? Bien au contraire. Bien au contraire, ce sont eux tous qui auraient envie d'être à notre place, mes amis. qui aurait envie d'être à notre place aujourd'hui, tellement les conditions sont plus favorables aujourd'hui pour connaître Dieu et pour lui rester fidèle. Contrairement aux croyants d'avant la venue de Jésus, eh bien nous sommes au bénéfice d'une œuvre inédite du Saint-Esprit qui a été déversée en abondance pour nous conduire dans la vérité. Nous sommes aussi au bénéfice de signes spectaculaires qui confortent notre foi en nous montrant que le Messie est vraiment venu et qu'il a vraiment accompli la purification des péchés et qu'il a vraiment inauguré le royaume de Dieu et qu'il va vraiment revenir un jour pour juger le monde. Et nous sommes en attendant au bénéfice d'une offre de grâce universelle en vertu de laquelle n'importe qui, je dis bien n'importe qui, peut s'approcher de Dieu dans la repentance et la foi, et ainsi être réconcilié avec lui pour toujours. Dans ce texte qu'on a lu, et comme je le disais en introduction, Dieu promet aux croyants de l'époque de Joël l'avènement futur pour eux, l'avènement d'un âge d'or pour ce qui concerne la relation des hommes avec Dieu. Il leur dit que ce sera tellement mieux que tout ce que les Israélites ont jamais connu dans toute leur histoire. Mais le message pour nous aujourd'hui, qui vivons dans l'an de grâce 2017, c'est que cet âge d'or est venu et que nous serions fous de ne pas en profiter. Mes amis, nous vivons aujourd'hui dans une période que la Bible appelle les derniers temps, qui ont commencé avec la venue et l'œuvre de Jésus-Christ et qui prendra fin, cette période, lors de son retour. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais d'époque plus favorable qu'aujourd'hui pour recevoir le salut que Dieu nous présente en Jésus. Toutes les conditions sont réunies pour que nous connaissions Dieu et que nous grandissions en lui et que nous le servions pour sa gloire et pour notre plus grand bonheur. Alors je vous le demande, peut-être de façon un peu solennelle, est-ce que vous êtes attaché de tout votre cœur à Jésus? Est-ce que vous appréciez le trésor exceptionnel qu'il vous a remis en sa parole, la Sainte Bible, qu'Abraham, il n'avait pas, que le roi David, il n'avait pas, que Moïse, il n'avait pas, que les prophètes de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas, mais que vous avez? Quelle chance! Est-ce que dans la prière, vous sollicitez l'aide de l'Esprit-Saint pour qu'il applique cette parole puissamment à votre vie et qu'il vous assiste dans votre marche chrétienne et dans votre témoignage? Mes amis, on peut faire tout ça. C'est dingue. Quelle chance, n'est-ce pas? Comme le dit l'apôtre Paul, voici maintenant le temps vraiment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Prions. Seigneur, merci de nous rappeler combien nous sommes privilégiés, en fait, d'exister aujourd'hui et d'être au bénéfice de tout ce que tu as déjà fait dans l'histoire, et notamment par la venue et l'œuvre de ton Fils Jésus-Christ et par le déversement de l'Esprit en abondance sur l'Église et chez les croyants. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, à apprécier tout cela davantage. Fais en sorte, Seigneur, s'il te plaît, que notre vie en soit transformée, que nous puissions nous lever chaque matin dans la joie d'être tes enfants et d'avoir l'Esprit en nous et de pouvoir ouvrir et étudier ta parole librement. Seigneur, transforme-nous puissamment, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen.